qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un podcast est un podcast et se différencie par le fait même de la radio traditionnelle? Je vous pose la question parce que ça devient de plus en plus flou, la limite entre le podcast indépendant et la radio traditionnelle qui redistribue sous forme de podcasting ses émissions. Parce qu'à la base, un podcast, c'est très technique, c'est un fichier média mis dans un fil RSS qu'on reçoit automatiquement à l'aide d'un agrégateur. C'est aussi simple que ça. Et on peut mettre n'importe quoi là-dedans et tout le monde peut le faire. Et quand on dit que tout le monde peut le faire, ben autant l'indépendant que la radio ultra bien installée. Je pose cette question-là parce que oui, la frontière devient floue d'un côté parce que il y a des podcasteurs indépendants ou des entreprises indépendantes qui apparaissent et qui produisent du contenu d'une plus grande qualité qu'auparavant. Et de l'autre côté, il y a les radios traditionnelles qui produisent des podcasts qui ne fitent pas nécessairement dans leur grille horaire, qui est du contenu un peu moins formaté et qui distribue comme ça sous forme de podcasting. Donc, d'un côté, le contenu est vraiment très large et la frontière est floue entre ce qui est amateur, entre parenthèses, et professionnel. C'est la même chose du côté de l'équipement. Pour réussir à produire un podcast d'assez bonne qualité, quand j'ai commencé, il fallait dépenser quelque chose comme 300-400 $ pour vraiment avoir un son qui se rapproche de la radio. Aujourd'hui, avec un micro à 100-150 $, un micro USB, on peut faire à peu près la même job et personne ne va s'en rendre compte. Ça aussi, ça a contribué à faire en sorte que la frontière devient de plus en plus floue. On a la même qualité sonore. On a un contenu qui se ressemble de plus en plus. Donc, elle est où la ligne? Je pose aussi cette question-là parce que je me demande à quel point, pour vous et pour moi, la qualité est importante pour qu'on s'abonne et qu'on reste abonné à un podcast. C'est sûr que quand on règle la question de la qualité audio, après ça, il n'y a plus de problème. Ce n'est pas un facteur de désabonnement. Comme ça arrivait auparavant, quand on avait une moins bonne qualité, les gens, à un moment donné, se désabonnaient parce que c'était irritant. Maintenant, on a tous accès à cette qualité-là. Les gens restent abonnés. De l'autre côté, ben, ce qui va faire la différence, ben, c'est la qualité du contenu, ce qu'on a à dire. Ben, pas nécessairement ce qu'on a à dire, mais qu'est-ce qu'on transmet comme information, t'sais? Ça, c'est important. Et après ça, ben oui, c'est ce qu'on a à dire là-dessus, donc le côté critique et notre façon de livrer le message. Évidemment, vous le savez, le podcasting en ce moment a un regain absolument incroyable en popularité. Il y a une croissance qui est là, qui ne s'est pas vue depuis quelques années en podcasting au niveau de l'auditoire. Ça fait en sorte que les émissions se multiplient, il y en a de plus en plus, il y en a des nouvelles sur toutes sortes de sujets et ça, on est très content de ça. D'un autre côté, il y a de plus en plus de ce que j'appelle des copycats, ceux qui produisent des émissions pareilles comme des émissions existantes. C'est pas très grave quand on est dans un autre marché ou quand on s'adresse à d'autres auditeurs ou qu'on parle dans une autre langue, mais quand on est dans un même marché, moi, ça me surprend toujours. Ceux qui vont faire, finalement, ils refont une émission qui existe déjà. C'est la même chose pour ceux qui partent un site web ou un podcast ou n'importe quoi, puis qui prennent un nom qui ressemble à un nom d'un podcast qui existe déjà. La limite du cerveau humain, c'est la limite de son imagination. Puis, personnellement, j'ai une grande fierté lorsque je réussis à faire quelque chose d'unique. Et d'un autre côté, j'ai vraiment très peu de respect pour ceux qui copient les autres et qui manquent d'originalité. Parce que ce qui va faire la différence à la fin, ce qui va faire que vous allez vous démarquer dans ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez de personnel, c'est ce que vous amenez de différent et c'est ce pourquoi on va vous aimer. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
and t-shirts, for bloody Tuesday, man. You've been a naughty boy, you let your face grow.
Je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de Jim Carrey. Le comédien, le comique. Pourquoi je vous fais jouer ça? Mais parce que c'était. Il y a eu le décès récemment de George Martin, une de mes grandes idoles, parmi les idoles au niveau audio, au niveau du personnage aussi, son importance dans la carrière des Beatles. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont values le titre de cinquième Beatles, entre autres des anciens musiciens. Je pense entre autres à Stuart Sutcliffe qui a joué de la bass, et malgré que c'était quelqu'un de cool que je trouve intéressant, c'était pas le plus grand talent musical. Même chose pour Pete Best qui jouait de la batterie avant Ringo. Pete Best était pas si mauvais, le seul problème c'est qu'il jouait toujours la même chose, donc il y avait pas la créativité des autres. Donc voilà, George Martin que j'aime raconter une histoire comme quoi que je n'ai pas rencontré George Martin. ça a tellement passé proche parce que je travaillais pour le Cirque du Soleil au moment où est-ce qu'il est venu travailler un bout de temps à Montréal pendant une couple de semaines lorsqu'il travaillait avec son fils Giles sur la trame sonore du spectacle des Beatles Love. Et puis, à un moment donné, mon fils est né. Je suis allé en congé de paternité. Et quand je suis revenu, on m'a dit « Ah, mais là, tu connais-tu ça, George Martin? » C'est comme me demander ça à moi. Je disais « Oui, pourquoi? » Mais on ne savait pas si on devait t'appeler parce que pendant que tu étais en congé de paternité pendant ton 3 semaines, ben, il est venu travailler avec son fils, puis là, ben, il rencontrait tout le monde, puis on le croisait à la cafétéria, puis les gens prenaient des photos, puis se faisaient signer des autographes, puis nanana. Ça, c'est comme hésiter à m'appeler pour me dire que George Martin est là, allô? Surtout que j'étais comme le seul employé au marketing qui avait l'air de connaître moindrement les Beatles. Quand il y avait des trucs spéciaux avec des petites références à faire aux Beatles dans certains projets, on me demandait toujours à moi parce que je connaissais tous les titres des chansons, les paroles, les histoires, etc. Voilà. Je n'ai pas rencontré George Martin. C'est un de mes grands regrets, mais j'ai rencontré d'autres gens de l'entourage des Beatles, puis... peut-être que je vous raconterai ça à un moment donné. J'ai fait mon une introduction sur la qualité dans le podcasting, si c'est important. Aussi sur le fait qu'il y a des copycats, des gens qui, pas juste s'inspirent de d'autres personnes, mais font la même chose, prennent le même nom. Tout ça, moi, je trouve ça un peu louche. Mais ça existe depuis tout le temps en podcasting, on s'entend. Il y a des gens qui avaient essayé, par exemple, il y avait le Canadian Podcast Buffet au Canada anglais qui parlait des podcasts au Canada anglais. Puis, à un moment donné, il y a un show qui est parti, mais exactement pareil, le même format, le même concept, tout ça. Ça n'a pas duré 10 émissions versus eux autres qui l'ont fait pendant, je ne sais pas, 7-8 ans au moins. J'ai vécu ça moi aussi, autant par le nom. Je vous donne un exemple, mais il y en a eu plusieurs. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelait Québec en balado-diffusion. C'était sur la région de Québec, un podcast qui parlait de lieux historiques puis qui c'était un peu comme une visite guidée dans la ville. Je ne me rappelle plus trop exactement. Mais il ne faut pas avoir beaucoup de respect pour ce qui existe, mais aussi il ne faut pas avoir fait son travail d'être allé dans Google pour chercher, faire une recherche. Ou au contraire, ils ont décidé « Ah, ben je vais faire comme lui vu qu'il sort bien dans Google. » Puis ça, c'est, si vous voulez mon avis, c'est un peu cave. Pas nécessairement pour... parce que, bon, c'est de la compétition dans Google, tu sais, ça, c'est correct, c'est juste normal. Mais prendre à ce point-là un nom pareil, il faut vraiment, vraiment manquer d'imagination. Puis, je trouverais ça triste d'être comme ça. Ceci dit, bienvenue au Québec en balado-diffusion. Avec cette longue introduction, ça m'a donné soif, bien sûr. Donc, je vous l'ouvre à l'instant. Oui. Le Québec en balado-diffusion, le podcast québécois original où est-ce qu'on déguste de la bière depuis 2006, bien sûr. J'ai ouvert ça dans vos oreilles. Oui, c'est une bière d'inspiration allemande, une bière québécoise, bien sûr. Une Kolsch. Oh! Une Kolsch, c'est quoi? Vous savez, il y a deux types de levures de bière, les ale et les lager. La différence, c'est surtout, bon, les ale, on parle de fermentation haute, c'est-à-dire que haute température, mais aussi que la levure reste en suspension sur la bière. Tandis que la lager, fermentation basse, basse température, la levure reste plus dans le liquide ou dans le bas de la bière. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est sûr, la lager, faut fermenter très longtemps à froide température pour que ça fonctionne. Et ça fait des bières qui sont extrêmement clean, pâles, un goût très net. Tandis qu'une ale, un goût un peu plus rond, plus de saveur fruitée, comme moins une lager finalement. Une kolsch, c'est quoi? C'est une levure ale qui donne un profil aromatique comme une lager et qui peut être fermentée à basse température aussi, pas aussi froide que les lagers qui fermentent le plus froid, mais quand même, ça peut. Donc, c'est ce type de bière-là. Je vais la sentir, je vais la déguster un peu. C'est surprenant, c'est assez aromatique, ça se rapproche de Pale Ale ou même de certaines IPA américaines. Il y a des arômes un peu fruités, pamplemousse, tropicaux, un peu de pain aussi là-dedans. Et je vais y goûter. Oh, c'est d'ailleurs pas une kolsch traditionnelle. Au niveau du grain, ça y ressemble. Pour vous donner une idée, kolsch, c'est pas juste le style de bière, pas juste le type de levure. Il y a du grain malté, donc du malt kolsch. Donc, il y a une certaine façon d'être malté qui est plus foncé que le malt pilsner qui est utilisé grandement en Allemagne, qui donne toutes les bières qui sont très jaunes pâles, très transparentes. La kolsch, le malt kolsch est un petit peu plus foncé, fait dans la région de Cologne en Allemagne, très difficile à avoir. Donc, la plupart des brasseries qui font ce style-là ici en Amérique du Nord utilisent d'autres types de malt plus pâles, du malt pilsen, auquel ils ajoutent d'autres types de malt un petit peu plus foncé pour donner la couleur. C'est pas très foncé. Mais si on avait juste utilisé du malt pilsner, ben ça aurait été vraiment encore plus pâle que ça. C'est un type de bière aussi qui est légèrement voilé, donc et on ne voit pas tout à fait à travers. Et pour faire ça, ben souvent certaines brasseries ajoutent du malt de blé pour donner cet aspect-là. Donc je vais en reprendre une autre gorgée. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus traditionnel dans le style, mais c'est vraiment intéressant, une bière qui se boit bien. Donc, c'est la Weya Gamak, une kolsch d'inspiration allemande. Elle fait 5,6% d'alcool, pas très amère, 23 IBU, donc pas amère, mais assez aromatique quand même. Donc voilà, on dit à l'arrière que bouquet présente un doux mélange d'arômes de conifères, d'abricots et de pamplemousse. Oui, donc des fruits un petit peu plus tropicaux là-dedans. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'on fait une bière au Québec d'inspiration allemande, kolsch avec probablement des houblons américains pour y appeler ça d'un nom et faire référence à la culture amérindienne. C'est quand même le mélange de styles. Je vais vous parler d'un service qui s'appelle TapeWrite, qui est un service pour l'audio, pas nécessairement juste pour les podcasts, ça pourrait être utilisé pour une chanson ou pour n'importe quoi en audio. À quoi ça sert? Bien, ça sert à créer des chapitres dans l'audio, donc évidemment sur un podcast. Qu'est-ce qu'on fait? On upload le fichier MP3 et on insère des images sur une ligne du temps, donc la ligne du temps du lecteur. Donc, ils ont un lecteur, ce service-là, TapeWrite, qui est sur mesure à eux. Donc, en insérant les fichiers, ça met des petits points. Donc, ça crée des chapitres automatiquement lorsqu'on insère à certains endroits ces choses-là. On peut ajouter, oui, des images, on peut insérer du texte, on peut insérer les deux aussi. Et quand les gens commentent, bien, on ne commente pas sur l'épisode ou le fichier au complet, mais on commente sur le chapitre en tant que tel. Donc ça, c'est un bon truc. Par contre, je trouve que ça ressemble un peu à SoundCloud. SoundCloud, le player est plus élégant premièrement. Il n'y a pas de chapitre, mais les gens peuvent faire ça, aller commenter à des endroits précis dans le player. Ça ressemble aussi un peu à des enhanced podcasts. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous en consultez des fois. Il y en a de moins en moins. Donc, des podcasts qui sont enregistrés en M4A, donc M4 audio, où est-ce qu'on crée des chapitres, où est-ce qu'on met des images, on peut mettre des liens aussi. Donc, ça ressemble à tout ça. En même temps, c'est un player qui peut être utilisé en ligne, qu'on peut mettre sur son site à soi. Personnellement, c'est le genre de choses, je trouve, que iTunes pourrait faire ou que d'autres agrégateurs de podcasts pourraient faire, pourraient mettre en place. Ça pourrait devenir une sorte de standard de faire ce genre de choses-là. Donc, c'est un service à surveiller. Je ne sais pas à quel point le taux d'adoption va être bon, sauf qu'il y a des podcasts très connus qui sont là-dessus. C'est en bêta. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission. Oui, c'était mon ami Pac-Man. Je vous refais jouer une autre chanson. Oui, ça s'appelle A Day in a Life, qui est tirée d'un album qu'avait réalisé George Martin il y a de cela quelques années, en 1998, où est-ce qu'il avait fait affaire avec plein de vedettes au niveau de la musique, au niveau de la chanson, mais aussi des comédiens comme Jim Carrey, que vous avez entendu tout à l'heure. Et ce qu'il a fait, ben, il commençait déjà un peu à perdre de l'audition. Fait qu'il s'est dit, avant d'être rendu trop loin, de plus bien entendre, je vais réaliser un album à mon goût avec mes idoles, des gens que je respecte, des gens qui ont du talent. Donc, je vais vous faire jouer A Day in a Life, qui est joué par Jeff Beck. je ne suis pas un fan fini de Jeff Beck, mais je dois dire que c'est un grand virtuose de la guitare. Et j'aime bien cette version-là de A Day in the Life, sans parole, tout ça. Qu'est-ce que je vais vous parler? Ben, de CIBL qui accepte les soumissions pour des projets d'été. Donc, on soumet un projet, on envoie un démo et on espère être choisi. Qu'est-ce qu'ils veulent? On peut soumettre des chroniques, on peut soumettre des émissions au complet. Donc, si vous avez une idée de projet pour l'été, ben, c'est assez intéressant, surtout si vous avez déjà un podcast puis vous produisez régulièrement à chaque semaine, ben, ça peut être intéressant de faire partie de la grille horaire de CIBL pendant l'été. Il y a aussi la CBC auquel on peut soumettre des projets toujours en tout temps. Il y a une page pour ça, ce qu'on n'a pas à Radio-Canada. Donc, je vais vous mettre les liens dans les notes de l'émission, comme ça, vous pourrez regarder ça. Puis si jamais ça vous tente de soumettre un projet, ben faites-le. Bonne nouvelle, la dernière recherche d'Edison Research montre que plus d'un Américain sur cinq écoute des podcasts. Donc, ça, c'est des chiffres assez énormes. On parle de 21% des Américains écoutent des podcasts sur une base régulière, pas juste une fois ou six mois, mais régulièrement, minimum une fois par mois, écoutent des podcasts. Cette année, c'est la plus grande hausse de l'auditoire en 10 ans. Depuis 10 ans, on fait cette recherche-là. Edison Research conduit cette recherche-là. Et c'est la plus grande hausse cette année. Donc, je pense qu'on est parti de, je crois que c'est 17% à 21% en un an. 4%, c'est énorme au niveau de la croissance de l'auditoire. Faut aussi noter que l'auditoire a presque doublé depuis 3 ans. Donc, ça aussi, il y a 3 ans, on était à 12%. Aujourd'hui, on est à 21%. C'est énorme. D'autres choses aussi qui est à noter, c'est que plus de la moitié des Américains écoutent une forme de radio en ligne chaque semaine. Donc, que ce soit podcast, streaming ou absolument n'importe quelle autre forme de radio sur Internet. Donc, les Américains écoutent beaucoup, beaucoup ça. Souvent, quand il y a des nouvelles comme ça, ben, j'aime blaguer et dire que ben, c'est ce qui va arriver dans 5 ans au Québec. Il y a souvent un contre-coup. Maintenant, ça prend plus nécessairement 5 ans, mais je pense qu'on peut attendre encore 1, 2 ans, 3 ans. J'aimerais voir les derniers chiffres sur le podcasting au Canada. Il y a quelques années, je suivais ça de façon assidue, puis il me semble que la recherche qui était là il y a quelques années sur le podcasting au Canada, ils ne la font plus. Je vais fouiller un peu, je vais regarder ça, j'aimerais comparer les chiffres. Il y a quelques années, l'endroit où est-ce qu'on écoutait le plus de podcasts sur la Terre au prorata de la population, c'était au Canada. Un des endroits des pays industrialisés où est-ce qu'on en écoutait le moins, j'ai pas dit pays, mais un des endroits, c'était au Québec, malheureusement. Oui, on est un petit peu en retard, mais c'est une question d'accessibilité au contenu. Il n'y a pas tant de gens qui produisent des podcasts en France. Il y en a de plus en plus maintenant, heureusement. Mais il y a quelques années, c'était assez tranquille. Et l'autre chose aussi, c'est que si on veut écouter des podcasts en français, faut pas que l'accent nous tanne, nous dérange si on écoute des podcasts français. Et de deux, parfois, ce qu'ils discutent nous touche pas comme Québécois parce que ça a rapport avec une réalité qui est là-bas, qui n'est pas nécessairement la nôtre. Donc, on doit se rabattre sur le contenu québécois et il y a une période où est-ce qu'il y a eu, un creux historique, là, il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Là, c'était assez tranquille. Beaucoup de gens ont arrêté de faire des podcasts. Puis il y a eu un moment où, avant que ça reprenne, et là, en ce moment, ça reprend, puis c'est le fun à voir, puis j'encourage tout le monde à faire de plus en plus de podcasts. Ça vaut la peine. Donc, oui, je vous encourage, et je vais vous mettre le lien aussi dans les notes de l'émission concernant la recherche de Edison Research. Il y a un nouveau podcast à la CBC, même si c'est un podcast anglophone, même si c'est un podcast produit par une grande maison de production, je vous en parle pareil parce que c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Mais parce que c'est un peu, sans être pareil, mais c'est un peu fait sous le moule de Serial. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire semaine après semaine où est-ce qu'on creuse une histoire non résolue. Donc, dans ce cas-ci, c'est une histoire, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas si c'est un crime, on ne sait pas. En fait, c'est la disparition d'un enfant de 5 ans il y a plus de 40 ans, au début des années 70, dans une région de l'Ontario. Donc, les gens étaient à la pêche sur le bord d'un lac, l'auto de la famille était un petit peu plus loin dans le sentier. L'enfant était censé aller à l'auto parce qu'il était tanné de pêcher. Puis, à un moment donné, il y a eu un moment où est-ce qu'on l'a perdu de vue, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, ceux qui font ce podcast-là creusent un peu l'histoire, reparlent aux gens qui étaient là, découvrent des pistes qu'ils n'avaient pas découvertes auparavant, puis font une recherche vraiment plus en profondeur. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est un des podcasts que j'ai découvert récemment pour lesquels vraiment je suis de façon très assidue. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes d'émission. Ça aussi, ça vaut la peine d'être écouté. Avant de passer à une autre chanson, je vais vous faire une demande encore une fois. Il y a d'autres gens qui sont allés dans iTunes, qui sont allés mettre des commentaires pour le Québec en balado-diffusion. Donc, je vous demande d'aller faire un tour, soit dans l'application podcast, soit dans iTunes, taper Québec. Me tapez juste Québec, vous allez voir, faites une recherche dans les podcasts. C'est un des premiers, le mien, le Québec en balado-diffusion. Et allez laisser une note, ajouter des petites étoiles, ça aide énormément. Et ça m'encourage parce qu'à chaque fois que je le demande, il y a toujours une, deux, trois, quatre personnes, soit qui font juste rajouter des étoiles ou qui laissent des commentaires. Et il y en a deux autres, deux nouveaux que je vais vous lire qui me font drôlement plaisir. Un qui dit « Une référence », c'est le titre de Frozen Frog, laissé il y a quelques jours. Ça dit « Ça fait plusieurs années que je te suis et j'apprécie toujours ton travail. Bien content de constater que tu as repris un rythme un peu plus régulier, mais je sais ô combien que ce n'est pas facile. Et oui, tu as raison. Trouver le temps pour le faire, trouver le temps pour le produire, le mettre en ligne, c'est pas toujours facile. » un autre qui dit la référence en termes de balado-diffusion, ça c'est le titre, qui est laissé par Kanata Katsus, que je connais, c'est Marty, qui dit la chose suivante, québecbalado.com est une excellente source d'information pour toute personne qui désire se lancer dans l'aventure du podcasting. Animé avec passion et esprit critique par M. Grandmaison, le Québec en balado-diffusion est la référence canadienne en termes de balado dont le contenu est en langue française. Longue vie. Ben, je vous remercie. Encore une fois, c'est mon salaire et je suis très content de ces commentaires-là. Surtout que quand on est dans l'application mobile, il y en a maintenant plus qu'une page de commentaires, donc ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie encore une fois, puis tout le monde, s'il vous plaît, faites-le. Je vais arrêter de vous casser les oreilles bientôt avec ça. On va faire autre chose par la suite pour essayer de pimper mon podcast, pimper l'auditoire. Donc, je vais vous donner une autre mission bientôt et c'est le temps d'aller le faire en ce moment, d'aller laisser un commentaire. Donc, je vais vous faire jouer une autre chanson tirée du même album et je vous laisse la découvrir. Je vous en reparle tout de suite après.
He come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Shh.
can feel his disease. Come together right now over me.
Come Together, avec un autre grand disparu, malheureusement, Robin Williams, qui chantait là-dessus avec Bobby McFerrin, que vous avez probablement reconnu si vous étiez déjeuné dans les années 80 et que vous vous souvenez de Don't Worry, Be Happy. Donc, c'est lui qui faisait tous les sons, Bobby McFerrin, et notre cher Robin Williams. Je ne vous parlais pas très longtemps, mais quand même, du podcast de Mike Ward qui a une certaine notoriété en ce moment. Donc, Mike Ward, c'est enregistré au Comedy Club qui s'appelle Le Bordel. Donc, le projet qu'il a mis sur pied avec Louis-José Houd, je pense que c'est François Bellefeuille et d'autres humoristes. Ce qu'ils font, ils prennent les humoristes qui sont là ce soir-là et ils prennent un micro. Et notre ami Yann Thériault est là pour assurer la technique, donc installer les caméras, filmer tout ça. Au début, il streamait live, mais il y avait trop de bugs. Je ne sais pas s'il a recommencé à streamer live. Mais d'un côté, c'est streamé live, c'est posté sous forme de vidéo sur YouTube et c'est disponible en podcasting, en audio. Faut comprendre que la vidéo n'est pas nécessaire dans ce cas-là parce que on se jase, on se parle, il n'y a pas nécessairement de gag visuel qui se passe sur place. Par contre, j'aimais ça à l'occasion quand ça a donné, puis j'étais devant mon ordinateur et c'était streamé live. Ça, c'était intéressant aussi. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est hautement populaire. allez voir dans YouTube, c'est beaucoup plus populaire dans YouTube qu'en podcasting. J'en parlais à Yann l'autre fois. Puis vous allez voir, là, je pense que c'est du 5 pour 1 là, au niveau de la popularité, là, de la comparaison. Donc, il y a 5 fois plus de gens qui écoutent sur YouTube. Puis ils ont des, je pense que c'est quelque chose comme des 20 000, 30 000 visionnements sur YouTube. Donc, ça marche assez bien. Puis ce qui est le fun, c'est que Mike Ward fait de la publicité indirect dans ses podcasts. Ben je dis indirect parce que c'est pas une publicité comme à la radio où est-ce que tu as la publicité de Ford et l'annonceur d'auto qui parle comme ça et puis patati patata. Non, c'est plus fait à la manière d'un podcast américain où est-ce que il fait juste parler du produit, il s'amuse, il rigole, puis il a sa façon à lui de le faire. Tout ce qu'il fait quand il fait une pub comme ça, c'est simplement pour parler du produit. Mais le but, pourquoi il fait ça, ben c'est pour faire connaître des choses, se servir de sa tribune. Mais d'un autre côté aussi, c'est pour ramasser des sous pour payer les drinks aux invités. Donc, il prend ces sous-là simplement pour payer les drinks aux invités qui sont là sur son podcast cette journée-là. Donc, probablement que vous connaissez déjà ce show-là. Probablement que vous l'avez déjà entendu. Si vous écoutez des podcasts, vous écoutez mon show, il y a des fortes chances. Ceci dit, il y a des shows vraiment, vraiment épiques. Les Denis Drolet, c'était vraiment quelque chose à l'émission de Mike Ward. Puis, étant donné que ça dure longtemps, c'est décontracté, ça se fait entre humoristes. Des fois, il y a de l'information qui sort qu'on n'entend pas ailleurs parce que ailleurs, ben c'est formaté. Les gens se font interviewer pendant 10-15 minutes, tandis que là, des fois, ça dure une heure et demie. C'est le fun. Donc, allez faire un tour, allez écouter Mike Ward. Ça vaut vraiment la peine. Je vais vous parler de nouveaux podcasts. Le premier, en fait, c'est quelqu'un qui m'a soumis ça sur la page Facebook du Québec en balado-diffusion, donc sur le groupe. Qui a soumis ça, mais en réalité, c'est pas vraiment un podcast. Ben, en fait, c'est dans le style d'un podcast. Le problème, c'est que c'est pas mis dans un fil RSS, c'est pas non plus disponible sur un blog. En fait, c'est mis sur YouTube, simplement dans un player de YouTube. Okay? Mais ça vaut la peine d'être écouté si le genre de sujet vous intéresse. C'est produit par un gars qui s'appelle Vincent Fugère et ce qu'il fait, c'est qu'il prend en photo des modèles et il fait des interviews avec les modèles. Donc, il y a une fille que j'ai entendue qui faisait du cosplay, l'autre qui est simplement modèle. Donc, discute avec eux autres après les avoir pris en photo, puis leur relation avec face à leur corps, face aux photographes, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Allez faire un tour. Donc, même si je vous dis que c'est pas techniquement un podcast, je vous mets le lien quand même. Allez écouter ça. Moi, j'ai eu du plaisir à écouter ça. Il y a 10 épisodes pour l'instant. L'autre podcast, qui lui en est un vraiment, ça s'appelle Cours Geek. Cours. C'est animé par Francis Lamarche sur la rive nord de Montréal et c'est produit depuis le 15 février 2016 et c'est enregistré une fois par semaine. Donc, c'est très, très, très récent. Ça a à peine un mois. Le sujet abordé, c'est la course à pied, l'entraînement, la culture populaire et le journal. Donc, un journal quotidien ou hebdomadaire plutôt. Le public visé, c'est les 18 à 44 ans. Pourquoi pas les 18-45, j'en ai aucune idée, mais quand même. Et la description qu'il m'a envoyée, c'est le podcast Cours Geek Cours, c'est l'extension du site web coursgeekcours.com, un projet consacré au sport, à la course à pied et le tout adressé aux geeks et aux fans de culture populaire. Le podcast se concentre surtout sur l'expérience de Francis comme débutant et passionné de la course, mais avant tout, un geek assumé. Le but est de faire le pont entre ces deux univers et de donner le goût de bouger aux geeks et rejoindre les sportifs qui sont passionnés en grande partie par la technologie et la culture populaire. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas pris le temps encore d'aller l'écouter. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission. Si l'univers geek vous intéresse et la course à pied aussi, c'est un podcast tout désigné pour vous. Et je pense ici à mon ami Pierre Journel, qui habite à Montréal, que je salue, qui est en France et qui est tout ça, un geek et un coureur à pied. Donc, peut-être, Pierre, tu pourras aller faire un tour, écouter ça. Ça vaut probablement la peine. Je vais vous laisser. Donc, avant de vous laisser, je vous le dis encore, s'il y a des commentaires, faites-le moi. Je vous avais mentionné il y a quelques épisodes que j'avais de l'audio inédit. j'ai commencé à le diffuser, aller faire un tour sur le groupe Facebook du Québec en balado-diffusion. Si vous ne savez pas c'est où, allez faire un tour sur le site, il y a un lien qui est là. Vous allez tomber là-dessus, puis j'ai publié un audio, un fichier audio là. J'en ai encore quelques-uns que je vais publier probablement bientôt, donc je vais faire le ménage, je vais les retrouver, puis des entrevues quand même intéressantes, honnêtement, que je n'ai jamais publiées parce que ça n'a pas à donner pour X raisons, mais que je risque de poster là. Sinon, en attendant, encore une fois, allez poster un commentaire dans iTunes, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Je vais vous laisser, s'il y a d'autres commentaires, québecbalado@commercial.gmail.com et je vous laisse avec, encore une fois, la musique qui a été enregistrée par George Martin pour un album qu'il a fait pour lui-même. Donc, exclusivement de la musique des Beatles, repris par toutes sortes de personnes. Vous allez voir, on va terminer avec In My Life, qui est pas chanté, mais récité par Sean Connery, l'acteur, sur la musique orchestrée par George Martin. Et c'est intéressant parce que à cette époque-là, Sean Connery avait déjà arrêté de jouer dans les films. Et au départ, il avait refusé. Il a finalement accepté de participer à ce projet-là. C'est un gars qui ne veut plus participer à aucun film. Il ne veut plus faire d'émission ou quoi que ce soit. Il a choisi d'être, de mettre un terme à sa carrière. Il a l'air toujours en forme, le bonhomme, de ce que j'ai lu. Je ne sais pas s'il avait su que sa retraite allait durer si longtemps. Je ne sais pas s'il aurait vraiment choisi d'arrêter complètement comme il l'a fait. Mais bref, s'il regrette, ça fait longtemps quand même qu'il regrette. Donc, je vous laisse avec ça. Ça s'appelle « In My Life », évidemment une chanson de John Lennon, un classique qui fait toujours du bien à entendre. Ciao!
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life,